Donc, peut-être comme je me suis un peu allongée sur la première partie, peut-être que je vais passer directement à... Désolée pour... je vais passer direct... Hier, c'était un peu sur l'enregistrement. Mais peut-être que par rapport à l'écoute, ça fait plus sens de passer directement à la production sonore. Donc, comme jouer l'environnement, si vous voulez. So, we come back to that definition of Raymond Murray Shafir that we have read at the beginning, where he distinguishes between listening walk, which is simply a walk focused on hearing, and a sound walk, where the listener is invited to actively interact with the environment where he is. So this might involve interacting with soundscape and reflecting on the acoustic properties of the space we traverse. And as we have seen a little bit at the beginning, we not only listen to soundscape, but every time we listen or just moving through an acoustic environment, we actually participate in the making of this, in the creation of soundscape, in the creation of this acoustic environment. We read and rewrite the environment where we are. And our practices, every movement we make, interact with what we listen to. And in this way, we will become also the maker of what of our listening situation. And this material and normal condition of listening is emphasized by many artists working on with peripatetic practices. And I've sort of divided this way, this activation of the environment, if you want, in three different ways of doing so. The first one is playing the environment, so activating the environment around us. And this is a map, made by the World Soundscape Project and published in European Sound Diary, which was a sort of study tour made by the World Soundscape Project members in Europe to visit and study the soundscape of several villages and cities in Europe. And during this tour, travel, they made also several works, and many of these took the form of maps with instruction for the walker. And so map with the instruction to walk, to listen, but also to interact with the soundscape or with the acoustic properties of the specific environment of the different cities. So this map often required to the listener to make very simple action, for example, to vocalize toward an architectural building in order to experience the resonance or the reflective effect of this building, or simple actions such as listening intently to the sound of the coins while we buy a bus ticket, so we put our money into the ticket machine. Here we have a little score written by Hugh Schreffne, which was part of the Scratch Orchestra founded by Cornelius Cardew in London. And this is taken from Nature Study Notes, which was a collection of little score, they call them rites, which was published in 1969. And it says, walk down the riverside path from Greenwich Pier, past the Naval College, the Little Trinity Hospital, the power station, to the gas work at Woolwich, picking up and root odd items such as driftwood, scrap metal, etc. Make sounds in any way with the items picked up. So also in this case, we have an expansion of the context of music making, because the score prescribes to make a specific route, but also an expansion of the material for music making. Anything you find on during the journey can become a musical instrument, and with which to play the environment. And here we have a work that I personally like by Francis Ellis, who is a Belgian artist based in Mexico. That, apart from being one of my favorite artists, is an artist that really devotes most of his practice to most of his art to walking to walking in urban space. And this work is called The Railings, and is part of a long a series of performances that he made in London in 2005, where he studied the city through a long period of exploration, and decided to enact several different performances entering in specific practices that he found in the city. So this one is called Railings, and we can see it. No, but why? I had inserted every items here, but they don't seem to work anymore. Sorry. Oui. Ah bon, je n'ai pas l'option. Well, as we are running a little bit late, I might stop here, but if you want, there are this one and also other videos on the artist's website. So just it was just to give you an idea of this performance. We'd actually basically use a drumstick to play the railings, which so often we find around the public square in London. So he used this instrument to sort of enter into relationship with a, if you want, a hidden rhythm inside the city. If you know this, I don't know if you know, but this the public square in London originally were not public, but were private. So the square were owned by the inhabitants of the building around the square. So it is also, for the artist, is also a way to make the distinction and this subtle threshold between private and public space audible, so to sound this threshold.
Il y a des parcs au centre de Londres où oui. C'est carrément des terrains de tennis.
Oui, c'est ça.
Au milieu de la ville.
Exactement. Et maintenant, la plupart sont publics, mais en passé, c'était privat et c'était des personnes qui habitaient autour de.
Il y en a encore.
Oui, il y a encore qui sont encore privés. Donc c'est vraiment, pour lui, c'était vraiment aussi une manière de réfléchir, mais aussi de rendre audible cette frontière entre la sphère private et la sphère publique. But yeah, here you have a completely different example of activating the environment, if you want, and is a piece made by another former member of the Scratch Orchestra, Michael Parson, which is called Eco Piece Canary Wharf, made in London in 2009. And it's a site-specific composition made for Canary Wharf, and which becomes also a sort of one-hour-long walk in this area of the City of London. It was an environmental sound work to be performed by a number of musicians with wind instruments, as you can see, moving around different places in Canary Wharf. And the players were instructed to... the composition was a series of very short notes, intervalled by long silences, and the musicians were asked to interact with the acoustic properties and in particular the reflective surfaces of the building in this area. So in this case, activating the environment is not playing the, if you want, the fit, some feature of the environment, but really entering in this vibrational process of this acoustic relationship with the context. So here, if you want, we come back to more traditional instruments and materials, but the compositional process takes into account the movement of the players in space and their interaction with the architectural structure of the specific borough. Of course, Canary Wharf was particularly useful, particularly because I don't know if you've ever been there, but you have all this building with the glass surfaces that create a lot of reflective acoustic effects. Another way of sound making, which is often used by many artists, is the step, which maybe is not by surprise, because the step is the primary form of bodily contact that we have with the space while walking. And at the same time, it is also a sort of sound mark that announces our presence from a distance, that indicates that we are arriving, that we are coming. I don't know, many of you probably have felt embarrassed while walking in a private situation because of the sound made by a pair of maybe two resonant shoes, or some of you might have been scared by the sound of someone else's footstep while walking at night in the street. The sound of the footstep is something that really is a sort of sound marks that indicate the presence of a body in space from an auditory point of view. And many artists have worked on the sound of the footstep. This is a work by Dennis Oppenheim, made in 1969 in Milan, in Italy, and it's entitled A Sound Enclosed Land Area. And it's the recording of the footstep of the artist while he walks in a specific area in Milan, and which is diffused in the gallery space with the map where the specific path made by the specific route followed by the artist is underlined with a pencil. So the final artwork becomes a sort of documentation of a processual performance where the artist enter into relationship with the environment by recording the sound of his own footstep. So walking becomes as a way to practice space with our body, and the steps becomes a way to acoustically interact with the soundscape that also reveal how always we interact with the soundscape we listen in by simply walking in the space. And here we have another example that I personally really like, and it's a performance and series of scores made by the artist Lawrence Abouhamdam, who is an artist, very young artist based in London. And in 2005, he created this series of work this series of performance entitled Marches for the organization Art Angel in London. And again, it's an investigation of the acoustic qualities of space through the step, in this case. So during the performance, you had 10 performers marching in urban space, following a path that had been designed by the artist in order to traverse spaces that had a particular acoustic qualities. So to create resonances, reflections, and other effects. Well, behind the planning of the route, there is also an historical aspect, because the artist studies the history of every place but where the performance takes place, in order to find the history of parades, of demonstration, of marches, in order to, if you want, echo these past experiences into the presence, into the present, through the performance. So the performers also wear these very special shoes that were made in collaboration with artisans in order to create shoes that would interact acoustically with the environment. They amplify the acoustic interaction with the environment. So also in this case, the step becomes a physical sound mark that interacts with the city on an historical and on a physical and acoustic level. Oh, it doesn't start. So sorry, but they were all here and now they're not anymore. Well, it was longer, but also in this case you can find it on the internet. And this performance is actually very similar to a whole series of projects by the German artist Katrine, who has started the process of investigation of the relationship between sound and space, starting really from walking practices. So she studies and explores urban space with this complex device that you have in this picture, made of binaural microphones, point of view camera, arm motion camera, right foot camera, left foot camera, pressure sensor. So she explores urban space with this recording wearable machine, if you want, in order to design a route that she calls Path of Awareness, that is meant to highlight our interaction with the space while walking again. So, and then she creates a map that can be distributed to the public for individual use, but she also made guided tours of these specific places that have been chosen for their acoustic qualities. So here the shoes become again a sort of instrument, if you want, that allows you to enter into dialogue with the environment. And in fact, she asks you to wear the most resonant shoe that you have for the walk. She also documents, the title of this series of walk is Go Your Gate. And she also document her process of exploration through videos that are then often exhibited in gallery context, such as this one that was made for Ars Electronica in Linz. Okay, we go directly to the third way of interacting with our environment, which is through voice, which is another, voice is another recurrent means used to interact with the environment. And also in this case, you know, voice is what defines our identity as a unique human being, if you want. Is a sign of our identity, the means we use to express ourselves, to say I'm here. And according to the Italian philosopher Adriana Cavarero, voice is really what define our individuality and our uniqueness. But at the same time, is the first mean of relation that we have to establish a relationship with the other. So it is both a means of subjectivity and of intersubjectivity. It is the sound that, as I said, that we use to communicate our presence. So again, it is in the following word, the voice becomes the primary mean we have to enter in to express our presence in the environment and to interact with the environment. And here we have a series of work by the British artist and vocalist Viv Coringham, which is called Shadow Walk. And in her case, the interaction with the environment, our interaction with the environment with through voice become also a sort of relational practice, because a relational practice is with the inhabitant of the places you work with, because this is a series of walk that take place in the specific area, asking a local inhabitant to accompany the artist on his favorite work, a work that has a specific meaning for him, and to tell stories while walking. So the artist records this process of exchange with a local inhabitant, and then after she has made the walk with him and has recorded everything, remake the walk, the same walk alone, improvising with the voice and also playing with the acoustic features of the environment. So, as she says, I attempt to sense my previous companion's traces on the walk and to make them audible through improvised singing in the location. Also here I have an example, but I have to go out again. This one is a walk made in Oporto for the Serralves Museum. This is an extract from a longer track, and well, basically, actually, the result of this process can have different forms. So they can take the form of audio walks. They can take the form of radio pieces. They can take the form, as in this case, of an audio track in an album. There are different results of this series of performances. And then another example is this series of performances made by the American artist Pamela Zedd in New York on the occasion of this festival, which is called The Last City, which is a festival devoted that invites artists to create walk in the city. So it's a festival. It was a festival because I think it is not anymore made. For this series of walk, various sites in Lower Manhattan were used as if they were the graphic scores. So she made these group performances with a series of vocalists and performers, reading the visual element and also textural element of urban space as they were a score. She elaborated a sort of, if you want, performative protocol in order to vocalize the features of the environment. And this led to a series of performances in different areas in Manhattan, where the group was really vocalizing what they could read as in the space they traversed. So it really, in this case, reading and vocalizing urban space. I have an example, but I don't think it will go. So let's come back here. Well, we have to imagine that most of the tracks that we are listening to are actually documentation of performances that were meant to be experienced in the situation where they took place. So the sound quality is often not exceptional. And here we have another score by Christopher Hobbs, who is a British composer, pertaining to the first generation of experimental composer in England. And in this score, which is dedicated to George Brecht, he asks us to whistle in order to give rhythm to our walking experience. So walking at your usual pace, think of a number between 9 and 10, and on the appropriate step, the 7 if the number was 7, whistle any short note. Before the next step after this, think of another number between 1 and 10, whistle at the appropriate time, and so on. The range of steps could be different, 1, 10, 10, 15, but once decided, should remain constant throughout the performance. The piece lasts any agree upon time or distance. So also in this case, everyday actions like walking and whistling becomes means of a musical performance, extending the possible practices to everyday practices. And this led to the second part, what was meant to be the second part of my talk that I guess we will not have the time to see, since it's already time to stop if you want to have a little bit of discussion. In the second part, I was planning to show you some everyday walking figures, both directly connected with sound and listening, or as in the case of the tourist, for example, not directly connected with sound and listening, but a symbolic figure of movement and of displacement, if you want, to see how these figures are reappropriated by artists in sound and music practices. So we had the tourist, for example, and the tourist that features prominently in visual arts in connection with walking practices, such as in the Dalit excursion or in the Free Fluxus tours. And then we had the practice of the audio walk, which supplement, if you want, in the same way as the practices like the Dadaist excursion to Saint-Julien-les-Prouves, that I'm sure you know, what proposes to experience everyday places with an aesthetical attitude. In many audio walk, you have the same intention. And then we had the shopper, and one work by Ligna that were reappropriated, especially the psychogeographer, the detective, the rhythm analyst, the military parade. And we had the, also the marching band with the work by Jérôme. That maybe could be the beginning of our discussion if you want. So basically, just to arrive to a very quick provisional conclusion, my interest in walking practices in the field of sound and music is due to the fact that I like to think of walking as a primary form of as a platform for the expansion of art in urban space and in the everyday sphere, at the same time as a way to appropriate and aestheticize everyday context, but also practices, everyday practices such as have you seen sound making or listening, but also specific practices and figures such as the tourist, we didn't have the time to see that. And so also as a way to propose listening and sound making and as a way of interacting with the urban on an experiential, on a physical, on a psychical, and also on an imaginative way. And this is my little conclusion. If you want to have space for discussion, I think it's time to end. Merci. I'm sorry, I had to run a little bit in this second part.
J'aurais bien des questions à poser. C'est pas encore l'état de questions. Comme c'est prendre des précautions oratoires, c'est la première fois que j'aborde le phénomène sonore de la façon, et je vous remercie de proposer. C'est un peu encore l'état de brouillon et de travail. Excusez-moi si je ne vais pas être très, très, très clair. En tout cas, ça m'a invité à beaucoup de réflexions et de refus parfois. Moi, mon écoute sur la marche a beaucoup changé. Parce que les espaces acoustiques ont beaucoup changé aussi, d'une part. Il n'y a pas que cette raison-là. Tout dépend de l'espace urbain dans lequel on se trouve. À Paris, par exemple, je trouve que la marche en tant que telle invite peu à des progressions, à des relations, mais qu'il y a des espaces très différents de l'un à l'autre, et que ce qui a remplacé la marche, c'est plutôt la notion de déplacement d'un lieu à un autre, qui a différentes fonctions, pas tellement de jouer, mais de changer l'espace pour ce qui me concerne, pour me régénérer. Régénérer mes sens, régénérer mon écoute, parce que lorsqu'on est dans un lieu de travail, l'écoute est toujours un peu captive de l'activité qu'on fait, et le fait de changer a un effet régénérateur auquel je tiens beaucoup. Alors évidemment, ça dépend de l'endroit dans lequel on se trouve. Je retire le mot « marche » pour le remplacer par « écoute en mouvement », celle qui permet de faire des rapports et des relations, qui mobilise l'esprit et donc de jouer. Parce que si une marche se passe dans un lieu permanent, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais mince, l'écoute en mouvement, aujourd'hui, c'est la musique. En soi, c'est une activité symbolique telle que... voilà, et finalement, une petite parenthèse que je fais là, il y a eu un grand moment d'émotion que j'ai raconté tout à l'heure, qui s'est passé ici il y a un mois, après les événements de Charlie Hebdo, où on s'est déplacé. On nous a invités à faire une minute de silence, et on s'est déplacé d'un lieu de travail en un lieu plus calme, dans la cour où nous sommes tous rassemblés. Et drôle de minute de silence, elle était occupée par du son en permanence, c'est-à-dire les sons de la cathédrale de Bourges, qui ont été vécus comme un silence de recueillement par tout le monde, même s'il n'y avait pas de silence du tout. Et cette cloche avait un temps propre, un mouvement propre, qui a démultiplié les secondes en les multipliant. Et cette minute a duré 10 minutes, en fait, avec un temps propre, une forme, un décrescendo final que tout le monde a respecté. Et je crois ne pas être le seul à avoir vécu ça comme un grand moment d'émotion et de recueillement par le simple fait d'avoir changé de lieu et par l'occupation de l'espace. Mais on vit peu ça à Paris. Alors, cette écoute, finalement, je me demande s'il y a un rapport, une relation entre une forme primitive, qui est la marche, avec des rapports et des relations, le déplacement physique de l'écoute et le déplacement symbolique de l'écoute dans les activités humaines que sont la musique, finalement. Et à quoi servirait ce travail, si c'est le cas, si ça fait partie de votre travail de faire cette relation, qui est une interrogation pour moi. À quoi sert-il de le faire? Soit de faire un travail d'historien, un travail de retour aux sources nécessaire, de réflexion, ou est-ce qu'on peut espérer de ce retour aux sources un renouvellement de la musique ou de l'expression sonore en général? Comme si on revenait aux sources et que peut-être on avait pris des chemins jusqu'à présent et que ce retour aux sources invite à prendre d'autres chemins de renouvellement. En tout cas, revenir en tant que tel, je ne vois pas trop d'intérêt parce que ça a largement été dépassé depuis. On a beaucoup travaillé. L'histoire des hommes a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, quel rapport peut-il avoir entre une écoute en mouvement qui est portée par la marche, le corps étant le support de l'écoute et donc le support des relations, etc. Et puis des activités symboliques qui sont là aujourd'hui. Et que peut-on espérer de ce rapport et de cette relation si tel est le cas?
Oui, on a déjà commencé. Je vous remercie pour cette question. On a déjà commencé, en fait, vous n'étiez pas là, à discuter de cette question pendant la pause. On était dans les jardins de l'école, dans les. Oui, je ne sais pas.
Où,
la cure de l'école, oui. Et bien, comme au début, j'ai cité l'intervenante suivante qui va parler ici demain, en disant que dans son livre Listening to Noises and Silences, elle dit, donc, j'essaie de parler en français, mais je ne suis pas sûre d'être capable, mais je sais. Elle dit qu'elle compare l'écoute à la marche en disant que l'écoute ce n'est pas une façon d'absorption, mais c'est plutôt une démarche, une excursion, une exploration de l'événement sonore, de les paysages sonores, mais aussi de l'œuvre sonore. Donc pour moi, oui, il y a beaucoup de relations entre l'écoute qui a lieu dans les contextes des paysages physiques, mais aussi les voyages symboliques ou imaginaires ou mentaux que l'écoute peut créer dans une situation de fixité. Ça, c'est...
Est-ce qu'à votre avis, l'un serait l'origine de l'autre?
Ça, je pense que c'est. Je ne pense pas qu'il y a une origine.
En tout cas, une fondation, une initiation, une inspiration.
Peut-être. On avait parlé aussi de ça. Il y a certains musicologues qui ont postulé que l'effet que. J'ai oublié les noms. Mais on a parlé de compositeurs français avec nous avant. Les gymnopédies.
Bon, ah oui, Eric
Satie. Oui, Eric Satie, qu'il était un grand promeneur. Il habitait à la périphérie de Paris. Et tous les jours, il allait à Paris en faisant les mêmes parcours. Donc, il y a certains musicologues qui ont postulé que la répétition dans les processus compositifs d'Eric Satie peut être en relation. Pour être mis en relation avec cette pratique de marche qu'il faisait tous les jours et en faisant tous les jours les mêmes parcours. Donc, il y a aussi des relations qui peuvent être postulées dans cette dimension-là. mon intérêt à la marche réelle est vraiment lié à un intérêt pour la, pour la dimension, si vous voulez, pour les diverses façons. Mon intérêt en général, c'est vraiment la, la zone de perméabilité entre la pratique artistique et la pratique du quotidien. Donc, plus en général, je me suis intéressée à la marche parce que mon intérêt principal, c'est sur cette frontière-là, qui est, qui fait partie de la recherche artistique pour tout le XXe siècle. Donc, mon intérêt pour la marche vient de cette question-là. Où est la frontière entre, entre la, la sphère du quotidien et la sphère du, de la pratique artistique. Et il y a aussi des, donc, une grande part des... On peut mettre cette question-là aussi au niveau politique. Jacques Rancière, par exemple, il dit qu'il y a deux grandes politiques de l'art dans le XXe siècle, dans les arts contemporains. Une de ces politiques est l'attention de l'art à se transformer en vie. L'autre est donc, dans ce cas, dans cette politique-là, il y a, la mette va être la disparition de la sphère esthétique à, parce que ça va devenir la vie. Et donc, c'est, une, ça arrive à un point mort, si vous voulez. L'autre politique de l'art contemporain est, pour Jacques Rancière, le fait que l'art se pose comme, comme un univers qui est complètement autre par respect à la vie quotidienne. Et donc, contient la, la, la promise, la promesse. La promesse, oui. La promesse d'une, d'une autre expérience qui n'est pas liée à, au travail, qui n'est pas liée à, au système où on vit dans la quotidiennité. Mais c'est, dans, pour un chat, c'est dans les creusements de ces deux politiques que se jouent la, les questions de l'art contemporain. Et moi, je suis vraiment intéressée à cette question-là. Et mon intérêt à la marche est lié au fait que la marche pour moi devient vraiment la première manière d'aborder un rapport à la quotidiennité dans la pratique artistique. Donc
c'est pas n'importe quelle pratique artistique, hein, c'est le son dont vous parlez, oui. Quand même.
Parce que sublimer le réel et la pratique quotidienne pour faire de l'art, parce que c'est des éléments permanents comme l'architecture, etc., c'est pas la même chose que parce que c'est du son.
Oui, bien sûr. Et, mais comme il y a une grande littérature sur la marche dans la pratique dans les arts visuels, et mon intérêt est chercher de construire une histoire de la marche dans les pratiques musicales et sonores pour essayer de mapper cette expansion des contextes des pratiques de l'art aussi dans les domaines des arts sonores, si vous voulez. Et donc, pour moi, regarder la marche, c'est vraiment regarder comme dans les pratiques musicales, les frontières de ce qui peut être appelé sphère esthétique, et dans ces cas sphère musique ou art sonore pour être redéfinie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question
incomplètement pour moi, mais là comme je suis un peu dépassé par les choses, je pense que j'ai mal exprimé. Si on parle de la quotidienneté, jusqu'à présent on a parlé du comportement de l'écoute qui est une chose, mais cette quotidienneté, là, de quoi elle est faite ? Et en quoi, finalement, cette quotidienneté peut avoir quelque chose de contemporain, au sens d'un renouvellement et de nouveauté ?
Non, je n'ai pas compris, excusez-moi, désolé,
que, je pense que c'est... Bon, j'ai posé la question sur l'écoute, sur la marche, au sens d'une écoute en mouvement. Mm-hmm. C'est vu du côté de la personne qui écoute. Vous parlez de la quotidienneté. Et donc, la question aussi est de quoi est faite cette quotidienneté pour alimenter un travail qui soit contemporain Et que veut dire contemporain dans ce cas-là, par rapport à une progression des arts qui ont précédé?
Pour avoir la progression,
qu'est-ce que ça peut avoir de contemporain? Quel est le sens contemporain que vous donnez à ce rapport entre la quotidienneté?
Et moi, je pense que donc dans les pratiques artistiques, les rapports à la sphère du quotidien continuent à être très importants, en fait. Bien que ça a commencé dans une dimension, si vous voulez, plus utopique dans les avant-gardes au début du XXe siècle, et ça est devenu encore plus forte dans les nouveaux avant-gardes de la seconde partie du XXe siècle, donc notamment les situationnistes qui ne voyaient pas son activité comme une activité artistique, mais comme une manière de résistance à la situation sociale et politique de l'époque où ils vivaient. Mais même si cette dimension utopique de l'art n'est pas plus jouable, si vous voulez, dans le sens que les artistes c'est un peu difficile de... Excusez-moi. Même s'il n'y a pas cette dimension utopique avec laquelle l'artiste pense à pour but de changer la société en général, les rapports à la quotidiennité restent toujours bien un enjeu très important pour les pratiques contemporaines. Et je pense que ça est plutôt fort dans la sphère de la musique et du son, peut-être parce que ça reste encore une question très forte qui n'est pas encore... Je vais faire un exemple. J'ai fait un petit projet au début de l'automne. J'étais invitée par un festival à penser à un projet. Et j'avais pensé de faire une collection de partitions sur la marche, donc qui proposait des marches dans l'espace urbain, donc encore sur cette thématique-là. Quand j'ai pensé à cette idée, mon idée c'était de distribuer les partitions au public, quand le public sortait des différents lieux qui étaient prévus dans les festivals, donc d'utiliser cet espace et temps interstitiel entre les différentes performances du festival pour faire mon petit projet. Et au début, je pensais que la plupart de cette partition était forcément écrite par les artistes des années 60. Et je pensais que cette question n'était pas trop encore urgente, si vous voulez. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de partitions sur cette question-là encore qui étaient écrites par des artistes qui ont aujourd'hui 25 ans. Donc je pense que pour beaucoup de musicistes et des compositeurs, encore aujourd'hui, la question de sortir de la salle de concert est toujours urgente. Ça signifie qu'au milieu des systèmes, si vous voulez, des présentations et des créations musicales, la sortie de la salle de concert qui a été faite déjà dans les années 60 reste une question ouverte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Et cette extension des pratiques et des contextes pour la pratique artistique reste une question sur quoi les artistes continuent à réfléchir. J'ai cette impression-là. Et tout à fait, on a beaucoup d'exemples de cette pratique qui sont faits aujourd'hui, même si les débuts, si vous voulez, de cette question sont beaucoup plus anciennes.
Je ne veux pas me monopoliser.
aussi des critiques, pas seulement des questions ou des suggestions.
Bah, après, on n'a pas, tout. Comme on n'a pas eu le temps de finir, tout ce que tu voulais dire, donc c'est vrai que c'est un peu. J'ai l'impression d'avoir, coupé la présentation. C'est dommage.
On commence à fixer 17h, mais
oui.
Je ne sais pas si on peut dépasser ou
non,
à cause de la radio.
Oui, parce que non, c'est moi que je me suis allongée vraiment trop pendant la première partie, donc c'est un peu ma faute.
On a le temps de continuer, je pense.
Non, mais
j'avais entendu 17h. Vous pouvez poser une question ou vous pouvez reprendre une partie.
C'est
non. Oh, on peut aussi continuer d'une façon moins formelle dans. Dans un autre contexte, je pense, si vous voulez.
Non, mais je sais. Ah, si. Mais c'était juste pour réagir un peu à ça, parce que j'ai l'impression que, du coup, le rapport artistique à la sphère quotidienne dont tu parles, dont vous parlez, je sais pas.
Non, tout.
Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi il me fait penser, alors c'est peut-être un saut assez grand, mais au rapport. Enfin, que peut poser, enfin, juste au rapport amateur et spécialiste, parfois ici je sais pas comment réussir à formuler ça, mais ça me fait penser par exemple à la sphère scientifique où aujourd'hui c'est très complexe et il n'y a pas que les scientifiques qui parlent,
oui,
d'objets scientifiques, et on voit les vidéos, je sais pas, par exemple animalières, ce genre de trucs sur, je sais pas pourquoi je te regarde Marianne, sur YouTube, etc. Finalement c'est des pratiques très amateurs mais qui en disent tout autant que certains objets scientifiques très, très appuyés. J'ai l'impression que ça touche à cette question-là qui est, bon, voilà, qui est juste hyper...
Ben bien sûr, la redéfinition du rôle de l'auteur et du spectateur par rapport à la pratique d'écoute, je pense qu'est centrale dans cette pratique-là. Et il y a toujours cette tension à la redéfinition du rôle prédéfini de l'auteur, des performeurs et des... du public, donc aussi une sorte de, si vous voulez, redéfinition des frontières de ce qu'on entend pour création et pour réception. Si on pose l'écoute comme un principe actif, on a bien sûr un court-circuit, une redéfinition des rôles préstablis et prédéfinis entre les trois figures de l'auteur, des performeurs et de l'écoutant. Et je pense que c'est une question centrale dans cette pratique-là. Et pas seulement dans cette pratique-là, parce que c'est vraiment aussi la question du rapport entre l'art et la sphère du quotidien est vraiment basé aussi sur cette quête-là, si on pense à des mouvements comme Fluxus ou comme oui, le situationniste aussi, mais c'était vraiment une tension à forcer cette séparation entre les différentes figures et à redéfinir aussi la réception comme pratique, si vous voulez, des actifs, pas seulement des réceptions passives.
C'est pour ça que je trouve assez intéressant le glissement aussi que tu fais entre un rapport à la marche qui au départ est visuel et un passage sur voilà, le plan qui est plutôt au niveau de l'audition, parce que c'est quand même deux sens qui fonctionnent en chiasme et en synesthésie, quoi.
Oui.
Donc, du coup, de juste d'opérer ce truc-là,
Oui, pour moi, c'est avant tout très important de ne prendre pas l'écoute comme une question qui est complètement séparée par rapport à les autres sons. Ça, pour moi, c'est une question fondamentale. Je ne peux pas penser d'isoler l'écoute de la question de la perception plus en général. Et de l'autre côté... aussi, c'est, j'ai cherché d'analyser la marche pas d'analyser la marche moi-même, mais de tenter, essayer de découvrir comme la marche a été pensée, la marche dans l'espace urbain a été pensée par rapport à la pratique quotidienne, pour voir si ça peut dire quelque chose sur aussi les pratiques artistiques, comme je vois la marche comme un point de croisement entre les deux, et un site, si vous voulez, des rapports privilégiés entre les deux sphères. C'était important pour moi d'explorer la littérature sur la marche dans la sphère du quotidien, donc pas seulement liée à la dimension de l'écoute.
Bonsoir.
Je suis assez d'accord avec toi sur ta remarque sur comment aujourd'hui une question qui est liée à la mobilité dans les espaces devient très pertinente aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit historiquement, mais qui était plus en fin de compte des sortes de positions critiques à l'époque. Mm-hmm. Et aujourd'hui ressurgit d'une autre manière. On ne sait pas trop comment ça ressurgit. Il ne me semble pas que ce soit forcément des positions critiques. C'est parfois surtout des positions poétiques également, d'exploration des espaces, en promenade, etc. Mais il me semble aussi que le fait que notre écoute s'est complètement modifiée depuis 20 ans, du fait qu'on est dans une écoute très appareillée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut écouter partout, tout le temps, en bougeant, dans le train. Donc, du fait qu'il y a une sorte d'écoute qui s'est peut-être banalisée, en fin de compte, ou même l'écoute de la musique devient quelque chose de tout à fait, de plus exceptionnel en tant que tel, devient quelque chose du quotidien, et que peut-être ces initiatives, ces œuvres, ces protocoles, ces dispositifs essayent de ramener une écoute plus précise du monde autour de nous et donc de notre environnement, et donc de replacer peut-être ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'écoute musicale d'une autre manière, ou l'écoute d'une œuvre sonore d'une autre manière. Enfin, c'est une sorte d'hypothèse que je veux.
Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Oui, c'est vraiment l'idée de créer des espaces où on vit l'écoute comme on a un peu bombardé, est-ce qu'on a ce mot, bombardé, par l'écoute, par la, si vous voulez, la médialisation de l'écoute. Donc on a toujours une sorte de bombardement d'écoute médiée. Ça a vraiment créé, pour moi, aussi des zones dans la sphère du quotidien où les pratiques qu'on fait quotidiennement sont... cariqués je ne trouve pas les mots, oui, peut-être en anglais. Donc pour moi c'est vraiment I think that it's a way of suspend a little bit for a while our everyday listening habits and our everyday way of exploring spaces or sonic words, in order to create a different temporality, a different time space, and in order to enlighten our everyday situation in turn. So I tend to think of these practices as temporary reappropriation of everyday places and of everyday practices that end up by engaging the urban situation from many different layers. Of course, not only as you said, not only in critical ways, but also with aesthetic ends, with environmental ends, with many different kinds of approaches. But they enter in this way urban processes and dynamic by suspending, in my opinion, the framework, the everyday framework where we usually act. So,
ce qui voudrait dire, en plongée dans le quotidien, donc qui serait une plongée dans le banal, en fin de compte. On se pose la question de la frontière entre une expérience esthétique, une expérience quotidienne. Ce que je vois à travers toutes les propositions qui sont là, c'est que le quotidien devient exceptionnel.
Oui.
Et donc, il y aurait quasiment... On aurait tout le temps la possibilité de l'expérience esthétique.
Oui, c'est un peu... C'est pour ça que j'ai dit... c'est vraiment une sorte de suspension temporaire de notre manière habituelle de nous rapporter à la sphère du quotidien. Et ça va créer... Ça, c'est un peu la question centrale de beaucoup de cette pratique. Je pense.
De quelle mobilité faut-il parler ? Celle des sons, celle de l'écouteur ?
De tous les deux.
La génération du rapport des deux.
C'est en tout cas des deux. Parce que ce qui est intéressant dans l'écoute, c'est qu'on n'est plus, dans une. On a toujours pensé, en fin de compte, les phénomènes de représentation, et notamment avec l'écoute, comme être face à recevoir quelque chose. Et il me semble que ce qu'on a appris tout au long du XXe siècle, hein, il me semble. Hein, au niveau philosophique, sociologique et artistique également, c'est qu'on raconte une sorte de continuité entre l'environnement et nous.
Oui.
Et ce qu'on a un petit peu perdu, en fin de compte, dans nos salles, que ce soit le White Cube, que ce soit la salle de concert, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, parce que c'est un espace très protégé, où on est positionné, on est placé, on est plus en mobilité, en fin de compte. Même si les sons pourraient être mobiles autour de nous, nous ne sommes plus en mobilité. Et donc le fait de penser ou de proposer des immersions, en fin de compte, ou de proposer des expériences dans lesquelles on retrouve ce lien action-réponse entre l'environnement et nous, rejoint tout à fait ce qu'est l'écoute, qui est véritablement ça.
Qui a toujours une interaction entre...
Là, je ne comprends plus. Je veux dire, quand même, dans l'expérience de la musique, entre autres, hein, il y a, dans la quotidienneté, il y a un acte qui me paraît important, c'est de passer du physique au jeu de l'esprit, pour ne pas dire spirituel, ce qui risque d'être pris au sens religieux du terme, en tout cas spirituel, pris comme les jeux de l'esprit. Il y a un acte de sublimation qui est, on parle d'une dimension physique, du son existant, et on va bien au-delà dans toutes les étapes. Qui permettent justement de jouer grâce à l'expérience physique, il faut que le son soit là, au contraire, il faut pas, etc. Mais hop, on va au-delà, très souvent par des rapports et des relations. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça dans la quotidienneté, enfin, et quand je parlais tout à l'heure de la question que tu viens d'exposer, c'est-à-dire de l'aspect contemporain, par contemporain, je veux dire quelque chose, si ce n'est quelque chose de nouveau par rapport à l'histoire, quelque chose qui soit apte à des investigations nouvelles, à des champs expérimentaux, avec qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau et de contemporain là-dedans? Comment explicites-tu le terme contemporain, en tout cas au moins comme champ
Non, je comprends maintenant, je n'avais pas compris.
De nouvelles découvertes, en tout cas, de comportements qui pourraient apporter des choses nouvelles.
Oui.
C'est ça que je voulais dire.
Oui, non, je n'avais pas compris du tout la demande. Je suis désolée parce que je n'ai pas répondu à la demande, si c'est ça.
C'est moi qui me suis mal exprimé.
Non, c'est moi qui je comprends mal, bien évident. Mais bon, pour moi, il faut dire que moi, je ne pense pas à l'innovation comme un bout pour l'art. Et je tende à penser que l'innovation n'est pas forcément un but de la pratique artistique.
N'est pas quoi ?
Un but de la pratique artistique. Je ne pense pas que le but de l'artiste est l'innovation dans tous les cas.
Ce n'est pas l'innovation dont je veux parler au sens scientifique ou industriel du terme. Hein. C'est de nouveaux comportements, de nouvelles situations, de nouvelles choses à découvrir. Voilà.
Mais je pense que.
C'est en quoi le retour à la quotidienneté est un apport pour la pratique sonore et musicale. Tout bêtement. complètement. C'est une question, hein, c'est pas du tout.
Non.
Enfin, il me semble, c'est pas forcément une. Enfin, je crois que c'est une préoccupation, ce qui est déjà important, parce qu'on arrive à. Ça fait problème, ça crée un problème. Et on,
oui.
Mais je sais pas si, regarde dans les. Quand Ferrari, par exemple, commence ce qu'il appelle, ou on l'appelle pour lui, la musique anecdotique, hein, le fait de se mettre en quelque sorte, enfin, de donner l'impression qu'on est en chronométrie avec le quotidien, comme si on écoutait une prise de son, et voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment. C'est un problème du quotidien. Ça. Qui surgit dans l'écoute. Donc je crois que ce qu'on retrouve là aussi, c'est pas si dur, 70, ce sont des préoccupations qui sont toujours présentes. Après, on a essayé de différentes manières, hein, en termes technologiques, que ce soit l'écoute mobile, les téléphones,
oui.
Les machins, les casques, et ensuite en spatialisation du son pour justement retrouver ou simuler ou contrecarrer des mouvements sonores dans l'espace, qu'on le retrouve dans les espaces construits, urbains, sont pour moi de même nature. Il n'y a pas un aspect naturaliste à aller dans le quotidien. Enfin, pour moi, ça m'intéresse pas, en tout cas, l'aspect naturaliste dans le quotidien.
Oui.
Ne semble pas intéressant. Mais bon, il y en a plein d'autres qui disent que c'est très intéressant. Schaeffer.
Oui.
C'est quoi le quotidien, enfin, le quotidien.
Bah, après, voilà, c'est effectivement. C'est qu'est-ce qu'on appelle le quotidien.
Ah oui, voilà.
Qu'est-ce que le quotidien.
Oui.
Enfin, c'est pas forcément la bonne formulation. On a toujours, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a fait une coupure à un moment donné.
Oui.
Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on nomme le quotidien.
Oui, mais.
Ce qui est assez bizarre, mais oui. Effectivement on le nomme.
Et c'est cette frontière-là que ça m'intéresse.
Est-ce qu'il faut renoncer dans l'art contemporain, du coup, avec toutes ces questions qui se posent, à la notion de communication et de sens? Par sens, qui est un terme très casse-gueule, je veux dire que quand il y a un phénomène sonore que l'on communique avec quelqu'un d'autre, en supposant que ce qu'on fait d'un point de vue sonore, puisqu'on le donne à écouter aux autres, est fait pour être entendu par d'autres, et que ça mobilise l'esprit avec des jeux qui sont mobilisés pendant un moment, c'est ça au moins que je vais appeler comme sens.
Mm-hmm.
Pas un sens au sens littéral du terme, dans la narration, etc. En musique, c'est pas là, mais disons au moins un truc bêtement qu'on donne quelque chose à l'oreille de l'autre et que ça lui permet de jouer comme la personne qui le fait. Ça, j'appelle communication. Est-ce qu'il faut renoncer? Est-ce que ça fait plus partie des préoccupations? Ou est-ce qu'il faut justement se préoccuper par des retours aux sources de savoir comment on maintient cette valeur-là? Ou est-ce que c'est plus l'autre?
Bon, pour moi, la question de la communication est toujours un peu utopique, si vous voulez, parce que bon, je ne suis pas moi qui a dit ça, donc, il y a beaucoup d'écrits sur ça, mais je pense que l'intention artistique n'est jamais. Ce qui arrive au public ne peut jamais correspondre à l'intention de l'artiste, parce qu'il y a toujours des.
Mais tout au moins pour espérer qu'il éprouve un intérêt qui lui permet lui aussi de jouer. Si, même si ce n'est pas forcément j'ai un cours de Schaeffer, là, il disait ce qu'entend l'autre, ce qu'on recevait comme cours, on ne le saura jamais. Et il donnait l'exemple d'une timbale en disant voilà, si je tape là-dessus pour un occidental, c'est un mi bémol. Si c'est un zoulou qui écoute, il va dire c'est du zèbre.
Mm-hmm.
En entendant la peau de l'instrument.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qu'on entend l'un et l'autre. Mais quand même, est-ce qu'il faut renoncer au fait que si on donne quelque chose à écouter, encore faut-il que l'autre se mette à jouer aussi, qu'il soit mobilisé. Et
oui.
Pas uniquement de contempler l'œuvre de l'auteur en disant bon, il a fait ça.
Et plus comment chacun va s'approprier ce qui va être donné à entendre.
C'est ce ce que je veux dire. Oui, l'écoute, c'est la même chose.
Ok.
Mm-hmm.
C'est-à-dire de jouer dans ce cas-là, de jouer avec des sons, de faire des relations, des rapports, etc. Quel que soit le mode de l'appropriation. Ce n'est pas forcément le même que celui-là.
Non.
Oui.
Non, je pense que ça est vraiment central dans ces pratiques. Je pense que ça reste une question principale, en fait. C'est seulement que ce qui a donné n'est pas forcément créé dans une façon autorielle, si vous voulez, mais pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont vraiment très bien orchestrés et très bien produits du niveau formal, si vous voulez. Mais je pense que c'est vraiment cette question-là. Qu'est-ce qu'on partage avec l'écoutant?
Oui.
Plutôt que qu'est-ce qu'on donne?
Oui, c'est une expression française. Qu'est-ce qu'on donne en temps? Voilà, ça signifie que si on auteur fait quelque chose, ce n'est pas uniquement pour lui, c'est destiné à être partagé
mais...
ou à être proposé à un auditeur.
Et... Là.
Mais il y en a qui remettent en question ça aussi, là. C'est-à-dire la communication n'existe pas, l'auteur fait ce qu'il a à faire, point. Voilà, moi, je suis musicien, je continue de penser que si je j'invite un public à venir écouter, c'est que ça va l'intéresser aussi.
Oui, mais j'imagine que d'une façon, dans cette recherche, quand je dis une extension des contextes et des pratiques, c'est aussi une extension du public, parce que surtout au début, l'idée de travailler pas dans la salle des concerts, mais dans l'espace urbain, c'est aussi une idée d'étendre les publics potentiels de l'œuvre. Donc, de ne pas s'adresser seulement au public des initiés, des appassionnés de musique, un public éduqué, mais d'approcher un public plus grand. Donc à l'origine de cette pratique, à l'origine par exemple de la sortie de Max Neuhaus de la salle de concert, il y a aussi cette côté-là, la recherche d'un nouveau public qui n'est pas forcément intéressé par l'art. Donc comme ça va créer des relations avec un public qui n'est pas forcément éduqué à la fonction de l'art. Et oui, je pense que cette question du rapport au public reste centrale dans cette pratique.
Je pense aussi, et je crois que c'est là où on peut aujourd'hui activer des aspects critiques. C'est-à-dire on peut se rendre compte aujourd'hui ou prendre conscience que notre écoute et notre manière de faire écouter et notre manière de proposer ou de fabriquer les écoutes, ce qui pourrait être une définition de la musique, en fin de compte, c'est énormément normé depuis longtemps, mais elle arrive aujourd'hui à quelque chose qui est assez critique, parce que les anciennes formes d'écoute rencontrent aujourd'hui les nouvelles formes d'écoute. Et au sein de la pratique artistique, qu'elle soit sonore, musicale, plastique, etc., on peut prendre comme levier de travail un rapport aux normes qui sont présentes. Et sans doute que dans ces travaux-là, que ce soit par rapport à l'écoute mobile ou à d'autres choses, hein, on verra aussi avec Salomé écouter ce qui n'est pas audible. De se rendre compte qu'en fin de compte, toute notre histoire, rend compte qu'il y a des normes et en quoi ces normes nous permettent de faire des choses, nous permettent de ne pas faire certaines choses. Mm-hmm. Et je crois que c'est là que ça se joue. En tout cas, il y a une grande marge de manœuvre pour les artistes.
Ah oui, bien sûr.
Il y a les normes de l'écoute et les normes de musique. Je me souviens que lorsqu'on voulait sortir des normes, il y a presque une cinquantaine d'années, on écoutait de la musique des autres civilisations, des autres histoires d'Afrique, d'Asie, etc. etc. Il y avait d'autres façons d'envisager le rapport de l'homme à la sans la musique, ça permet d'écouter
beaucoup.
Ok. Merci. Un peu désolé d'avoir écourté la séance parce qu'elle a arrêté.
Non, mais c'est... Oui.
Mais on peut peut-être demain continuer une partie des choses dans la discussion qu'on va avoir.
Oui, pourquoi pas.
Tu as vu des scores, des partitions?
Ah non, enfin, je ne l'ai pas fait parce que j'avais compris que demain était un dialogue.
J'ai mis quelques-uns.
Ah oui? Ok.
Mais on peut partager la matinée de demain, une partie de continuation de ce que vous avez fait.
Oui, comme vous préférez. On va parler de ça. L'espace urbain m'intéresse beaucoup parce que je pense que donc vous savez que maintenant je pense que les 80% de la population mondiale vivent dans un espace urbain, donc il y a un processus d'urbanisation qui est vraiment fort et la ville reste centrale, la dimension de la ville reste centrale dans la à niveau des processus géopolitiques mondiaux. Donc pour moi, l'espace de la ville, c'est vraiment l'environnement où se joue notre relation à l'environnement maintenant. Donc l'espace de la dimension romantique de la marche dans l'espace de la campagne est plutôt une sorte de voyage, si vous voulez, qui nous permet de sortir de la dimension du quotidien. Donc, comme je suis intéressée à la frontière entre la pratique artistique et la pratique du quotidien, je pense que pour la plupart de nous, notre expérience quotidienne est liée à l'espace urbain. Et je pense que c'est aussi pour ça que la littérature sur la promenade dans l'espace naturel ou littérature du 19e siècle, si vous voulez. Mais dans le 20e siècle, beaucoup des théoriciens, mais aussi des auteurs de littérature se sont concentrés sur l'espace urbain parce que ça est devenu l'espace principal où se joue la vie humaine. Donc on a parlé au début de toutes les différentes perspectives qui on trouve dans une littérature qui est très interdisciplinaire sur la marche dans la ville. Et cette littérature-là, ça s'est concentrée sur la marche dans l'espace urbain parce que je pense que c'est l'environnement dominant de notre existence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais...
Si, mais après, c'est vrai que toute cette marche dans l'espace urbain, en fait, moi j'évite de... Je déteste marcher dans la ville, vraiment, et je me déplace toujours le plus vite possible, souvent en vélo, parce que c'est le plus rapide que même le transport en commun ou la voiture.
Et c'est vrai que quand j'ai envie de marcher et quand j'ai vraiment envie, voilà, c'est que ça va plus être dans la campagne ou à la montagne. Et je vais surtout marcher pour aller chercher des endroits et des sons et un environnement qui m'éloigne de tous les bruits.
Oui, et qui est exceptionnel.
Dans la ville, en fait. Et parce que dans la ville, je trouve que on est un peu agressé tout le temps. Et c'est la musique qui vient d'un magasin, après une voiture qui passe à fond, tout ça. Et puis c'est vrai que les marches urbaines, c'est quelque chose qui a tendance à me stresser et à m'énerver, en fait, plus que... Et je comprends le truc de vouloir réécouter, réorganiser l'espace urbain pour faire une musique et tout ça, mais c'est vrai que...
Oui, mais...
Ma marche, je veux plus la situer le plus loin possible.
Plus loin possible, mais ça, c'est une sorte de sortie de la quotidianité. J'imagine que tu vois cette promenade dans un espace qui est un espace autre, comme une sorte de temps exceptionnel qui tout...
Je sais pas, parce que moi j'ai envie de... Après, moi, je pense que c'est j'ai un peu l'impression, après je vais peut-être dire une grosse connerie, donc je sais pas, hein, mais j'ai un peu l'impression que tout mouvement artistique, on va dire, tend à vouloir... je sais pas, faire que ce qu'on appelle la quotidienneté et ce qui est exceptionnel ne soit plus qu'un seul, en fait. Mm-hmm. Et c'est peut-être... je sais pas, moi, pour moi, quand je pars en voyage et que je vais marcher dans une montagne où il n'y a rien, pour moi, j'ai envie que ça fasse partie d'un quotidien, et pour moi, c'est pas le truc exceptionnel.
Oui.
Enfin, c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir ce rapport-là. Il y a quelque chose qui est quotidien et il y a quelque chose qui ne l'est pas.
Oui, mais ça, c'est, je pense, un des bouts de cette pratique artistique-là. Aussi.
Je sais pas. Comme quand tu disais que maintenant, on pense que. On se pense par rapport à l'écoute comme une continuité. Enfin, on est une
vision avec l'environnement.
Ouais, c'est ça, une continuité avec l'environnement. Voilà, c'est pareil, c'est une toutes les marches que j'ai envie de faire, c'est une continuité de mon quotidien. Et c'est pas un truc exceptionnel.
Oui, et ça...
C'est que un truc exceptionnel, justement. Au contraire de la quotidienneté.
Mm-hmm. Le postulat de départ de dire que l'écoute en campagne serait romantique, c'est plus une norme sur laquelle il faut penser ça, en fait.
Ah ouais, c'est une conception
hyper-organique. Qui est en fait juste à repenser, parce que cette prémisse-là, elle est...
La question du paysage naturaliste. La question du paysage
naturaliste, c'est bien vieux.
Le paysage, le plein air, tout ce qui est des préoccupations à la fin du 19e,
ouais.
Ce rapport
à
l'extérieur, à l'inconnu, formalisé.
Justement, le reconnu du quotidien.
C'est ça, d'accord, c'est ça.
Oui. Pour faire que les deux soient ensemble.
Mais je pense à ça, parce que je réfléchis, mais ça peut être une sorte de quotidien aussi.
C'est ça.
Ah oui.
Non, mais oui, bien sûr. Mais cette identité entre les espaces de liberté, comme je pense que la marche dans un espace naturel peut être considérée comme un espace de liberté, et la quotidiennité est une des utopies qui fait part de la pratique artistique. Parce que je pense à la dérive situationniste, c'était vraiment ce n'était pas vu comme un projet artistique, mais comme une pratique de résistance à la fonctionnalité que le système capitaliste nous propose comme façon de vivre. Donc, comme occuper, habiter l'espace, comme chercher des temporalités et des spatialités différentes de notre manière d'habiter l'espace, en introduisant la dimension ludique et la dimension du jeu dans la vie quotidienne, pour changer la vie quotidienne. Donc, c'était cette question-là de faire que les espaces de liberté deviennent notre vie quotidienne, c'était cette identité entre les deux, c'était un début de cette pratique-là.
Il y a un passage dans Un lys aux pieds des merveilles où il y a la reine
échiquier. Et en fait, il faut qu'elle court pour que le paysage, pour rentrer dans le paysage, je ne sais plus le but des yeux. Mais il y a quelque chose de bizarre, en fait, tout d'un coup, qui se passe. C'est elle qui fait avancer le paysage et ce n'est pas le contraire. En fait. Mm-hmm. Et y a, enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça me fait penser.
Oui, je ne connais pas cette...
Il est beau. Mais il y a tout un rapport au temps et à l'espace.
Moi je vais dire la même chose que Victor. Écoute, à la campagne, c'est pas la dimension romantique, on sent que par le peu d'informations qu'il peut y avoir à la campagne, chaque élément a un sens que reconnaissent les paysans, par exemple. Dans la ville, moi j'ai vu évoluer beaucoup le niveau sonore et la quantité. Je veux dire, tout dépend évidemment de sur les urbaines, on parle, mais globalement, je pense qu'on est en régression énormément, dans la mesure où il y a une quantité d'informations sonores qui font qu'on écoute globalement, qu'on a une écoute sélective qu'on n'écoute plus du tout. Je prends un exemple que j'ai peut-être déjà raconté. L'autre jour, dans le train, il y avait un garçon, et on écoutait les sons. On se dit, tiens, tout le monde avait l'oreille comme ça, et il y avait un homme qui écoutait à tue-tête, si j'ose dire, un film pornographique, publiquement, avec tous les sons qu'il peut y avoir, des jubilations, etc. Ça n'avait pas l'air de le choquer du tout. Comme ça, quand même, un espace public, on a des sens qui font sens pour tout le monde, c'est un espace partagé, qu'on retrouve peut-être à la campagne, hein, et qui mérite un peu de respect tout de même. Quoi. Je veux dire, c'est pas un espace privé d'écoute. Voilà, alors j'ai l'impression que le niveau sonore est devenu trop fort, ou alors c'est moi qui suis malade. Dans les métros, dans le train, le niveau sonore est important, on appelle le contrôleur, mais c'est trop fort, mais j'y vois rien. Il y a une espèce d'irresponsabilité, de fatalité par rapport au domaine sonore dans l'espace urbain que je regrette très profondément. Alors, du coup, toute cette profusion, tout le fait qu'on ait des machines privées pour écouter, fait qu'il y a une espèce de confusion entre le domaine privé et le domaine public. La question, c'est que, est-ce que finalement, on n'a pas régressé dans l'apprentissage de l'écoute? Qui écoute encore? En fait, si l'espace urbain est un espace d'inspiration pour l'artiste, qui est encore capable d'écouter? J'ai l'impression qu'on n'écoute plus.
Justement, là, il y a des propositions de forme douce.
Oui, oui. Ouais. Attends, on n'est pas pour le public, d'accord? Pour l'artiste seul, je veux dire. Mais je parle de l'écoute publique.
Ouais.
Des gens, hein.
Je pense que cette question est aussi plus large parce que aussi pour les médias visuels, si vous voulez, il y a un bombardement d'images. Notre vie, c'est la même chose. On a des écrans partout et je pense que cette dimension des hyperstimulation sensorielle fait partie de notre existence.
Comme une fatalité.
Non, je pense que ça est programmé, tout à fait. Mais je pense que les activités de réappropriation individuelle du paysage sonore, dans les cas qu'on parle partagé, c'est une façon ça a été toujours notre forme de relation avec les paysages sonores. Parce que chaque action qu'on fait contribue à redéfinir les paysages sonores qui est partagé. Donc la question de la division entre l'espace public et l'espace privé se pose dans une manière, si vous voulez, plus évidente dans les sons, parce que les sons ne connaissent pas des frontières. Donc même les bruits produits à l'intérieur d'une maison peut devenir partagé. Donc cette question se pose de manière particulièrement forte.
Oui, transsélection. Mais une autre anecdote, comme j'ai travaillé avec des écoles, une fois les institutrices amènent les enfants au conservatoire, etc. Puis, apprenez-leur à écouter, aux enfants c'est important, apprenez-leur à écouter, etc. Bon, puisqu'on dit qu'on apprend à écouter, on a travaillé sur l'écoute. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Qu'est-ce qu'on fait au conservatoire? Est-ce qu'il y a des points qui se renouvellent, etc. Et à mon invitation, personne n'a répondu. Et donc, ni à l'école publique, ni au conservatoire, on apprend à écouter. aucun travail qui est fait pour apprendre à écouter. Je ne dis pas à ouïr, à entendre, mais à écouter véritablement. Voilà, et moi, ce que je vois basculer avec mon grand âge là, c'est une véritable écoute qui se faisait par un nombre moins important d'informations. Il y avait une écoute qui a basculé vers la sensation et l'émotion, et pas des éléments constitutifs, des rapports et des relations, qui pour moi est la véritable écoute. On écoute beaucoup plus pour la sensation que ça fait, le fort, la sensation globale, et pas l'écoute des éléments constitutifs, des rapports, des progressions et des relations qu'il y a entre. Je ne parle pas pour tout le monde, bien sûr. Je parle des pratiques collectives que les instruments qu'on a à notre disposition ont généré.
On a déjà parlé, Roger.
Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je l'ai dit, mais ça n'empêche pas que c'est un problème important.
Enfin, ouais. Moi, je ne pense pas qu'il faut apprendre à écouter. Justement, c'est le seul sens qu'on peut développer par nous-mêmes. Et on ne nous impose rien, dès le plus jeune âge, quoi. Et on en avait déjà parlé, où chacun se crée son écoute au fur et à mesure de son existence, et c'est ça qui est beau au final, c'est qu'on ne l'a pas appris, quoi. On l'apprend un peu par nous-mêmes.
Mais c'est bizarre aussi, parce que par rapport à ce que tu dis, il y a aussi quand on fait une fête, ou quand on fait trop de bruit dans la rue parce qu'on vit le soir ou quoi que ce soit, là on est très vite bloqué, quoi. Alors que, je sais pas, une ambulance qui passe peut faire beaucoup plus de décibels, oui, ou un marteau piqueur. Par contre, ça, on le tolère. Et c'est bizarre comme c'est vachement restreint, ça, par contre.
Mais vous, il y a aussi des politiques de privatisation de l'espace par l'utilisation du son. Je ne sais pas, j'ai fait un exemple de la ville où j'habite, qui est à Bologne, et il y a un théâtre lyrique qui est dans la ville, dans la zone universitaire de la ville, qui est un quartier qui a toujours beaucoup de... lamentelle, non, n'existe pas. Il y a toujours des problèmes entre les habitants et les étudiants, parce que les étudiants, il y a beaucoup de bars dont les étudiants sont considérés très bruyants, comme ça, et bien sûr tout cet quartier est vraiment connoté au niveau du fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, même au niveau sonore, parce que il y a cette pratique de redéfinition du paysage sonore de centre-ville par les étudiants qui sont présents et ils font des bruits. Et ça détermine aussi la connotation de cette quartier, à mon avis. Mais pour tourner au théâtre, ce théâtre est dans la place principale de la part universitaire de la ville. Et il y a aussi beaucoup de sans-papiers, on dit en France, des personnes qui n'ont pas une maison, qui dormaient toujours sous les... avant les théâtres, il y a une sorte de... Oui, porte... Oui, peut-être. Donc, beaucoup de personnes qui n'ont pas une maison utilisaient cet espace qui est entre les privats du théâtre et la place pour dormir à la nuit. Et bon, les théâtres ont mis des haut-parleurs qui transmettent des musiques lyriques sous les porticus, pour faire déménager les sans-papiers, parce qu'ils pensent que cette typologie de musique n'est pas aimée par les sans-papiers, et donc avec cette appropriation spatiale de l'espace qui est déjà un espace public, ils ont privatisé l'espace qui est dehors, qui est hors les théâtres. Oui, et ça est vrai aussi dans les espaces, je ne sais pas, les hypermarchés qui utilisent des haut-parleurs avec des musiques amusantes. Pour attirer les personnes qui vont faire du shopping, mais aussi pour faire oui, pousser les, je ne sais pas, les jeunes qui vont aller avec leur skateboard sur les parkings. Donc il y a aussi des manières de privatisation par l'utilisation du son de l'espace qui est public.
C'est un vrai truc de pouvoir, en fait.
Oui.
C'est comme quand on se trimballe dans une rue commerçante et que chaque magasin a une musique différente et
puissante.
Mettre sa musique de plus en plus fort et le magasin qui aura la musique la plus forte aura gagné, quoi.
Oui, parce que ça devient une sorte d'empreinte, d'appropriation de l'espace, tout à fait, parce que les sons, bien sûr,
à cette... Je viens de Dijon, et dans une des rues principales, qui est une rue commerçante, il y a un magasin qui a des enceintes dehors, et qui met de la musique à fond toute la journée dans la rue, c'est insupportable. Et je pense qu'il y a très très peu de gens qui apprécient ça, vraiment, parce que c'est très fort, et... Mais en fait, les gens font, enfin, la municipalité ou je sais pas quoi, bah, font absolument rien pour empêcher ça. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui habitent dans cette rue, ils ont de 9h du mat à 7h du soir, ils ont la musique du magasin.
Pendant Noël, à Bourges, vous voyez, c'est des chandelles toute la journée.
Ouais, bah, ouais,
moi, je les ai appelés pour leur dire que.
La vision est pareille, ils font de la musique dans la rue aussi.
Et apparemment, tout le monde appelle, quoi. Et eux ils sont derrière leur volume quoi, ils s'en foutent quoi, ils pensent que ça plaît à tout le monde alors que pas du tout.
C'est
une plainte
bizarre.
Par les habitants, parce que ceux qui viennent faire leur shopping le samedi qui habitent à 20 bornes, tu vois, ah, tiens, on va sortir à Bourges samedi pour aller faire le shopping, ils s'en foutent que tu vois du volume. Ils passent, hop, ils sont là dans une ambiance de Noël, on est détendu, mais pour ceux qui habitent dans la même rue, ben, c'est insupportable.
Ouais, bien sûr.
Donc après, voilà, c'est, chacun appréhende aussi ça. Moi, je sais que dans les magasins, ça me fait fuir, je ne peux pas rester. Et peut-être que ces sons qui font fuir les SDF, peut-être que je vais rester et écouter ce son-là. Donc après, chacun aussi. C'est une généralité, quoi. Mais c'est intéressant de voir.
Oui, de voir
comment les gens...
Comment ça entre dans cette... c'était
le silence qui est relatif,
j'ai compris que moi je n'ai pas cette approche nostalgique, mais c'est moi, hein.
C'est pas une approche qui est nostalgique, ouais, parce que j'ai pas du tout,
il y a des gens qui entendent mais qui n'est
que comme de regard sur le passé romantique qui dit que leur accent est si tu fais espèce de sublimation de la campagne et donc, tout ça, j'ai vraiment pas du tout ça, et justement j'essaye de fuir un peu ça justement en faisant en sorte que mon quotidien devienne aussi cette chose qui est un petit exceptionnel. Donc j'essaie vraiment de pas avoir, enfin j'aime pas du tout tous ces sentiments de mélancolie, une espèce de grandeur passée, tout ça quoi. Mais vraiment maintenant la vie est très 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 agressive, je trouve.
Non, merci à vous. Non, merci à vous. Pas d'applause.